impatient de recommencer. Parfois, ils font des rencontres, des nomades, mais aussi des touristes, comme ce jour où ils croisent, à la fin de la journée, deux Français, deux hommes qui doivent avoir une petite cinquantaine d'années et portent l'attirail complet des randonneurs, chapeau type Columbia avec jugulaire ajustable, bermuda avec des poches sur les côtés et chaussures adéquates, t-shirt ample, bandana autour du cou pour l'un, lunettes de soleil genre haute montagne, deux belles gueules burinées par le soleil, cheveux courts poivre et sel, barbe de 2 ou 3 jours, un peu plus chez celui des deux qui s'appelle Stéphane. Ils marchent, mais ils sont accompagnés d'un âne têtu comme il se doit, qui refuse souvent d'obéir et qui porte tout le barda. Ce soir-là, Samuel descend tout seul chercher de l'eau avec une bouteille en plastique qu'il essuie depuis quasiment le début du voyage. Il ne revient pas qu'un truc aussi banal qu'une bouteille, qu'il balancerait en France sans même la regarder, devienne ici un allié dont chaque soir, chaque matin, il mesure l'utilité. Comme les feuilles de papier toilette, comme la petite pelle, on lui a appris qu'il ne fallait pas déposer sa mère de partout, sans faire attention, ça attire les bêtes, et tu peux corrompre la vie autour de toi, les animaux, la flore, il faut que tu prennes le moins de place possible dans le monde qui va t'accueillir. Et au début, il avait fait comme sa mère le lui avait dit, et répété, mais sans conviction, juste pour qu'elle lui foute la paix. Maintenant, il le fait parce qu'il comprend que chaque geste peut altérer l'environnement, que chaque geste a des conséquences. Ainsi, il va chercher de l'eau tous les soirs dans sa bouteille en plastique. Il la filtre ou la fait bouillir sur leur réchaud. Ce soir, il est en train de remonter avec sa bouteille dans les mains. Il va retrouver sa mère et les chevaux sur le replat où ils ont déjà installé leur campement. On fait toujours réchauffer les soupes lyophilisées entre les deux tentes pour éviter les coups de vent et limiter les odeurs qui pourraient tenter les bêtes. On pense parfois à la peur de rencontrer des loups, des ours. Ce n'est pas impossible. On ne sait pas ce qu'on ferait vraiment. Samuel a à peine dépassé un bosquet et longé un petit couloir plein de gravier et de roches grises, parsemé d'édelweiss et de fleurs violettes dont il ne connaît pas le nom, que, soudain, il entend des voix d'hommes. Une seconde, il s'arrête, un peu comme le chevreuil qu'il avait croisé 2 jours avant, à peu près dans la même situation. Mais le chevreuil avait fixé de sa face grise un instant très court et s'était évaporé derrière des roches en 2 ou 3 bonds. Lui, il ne bouge pas. Il attend. Il voudrait d'abord entendre sa mère, car il n'y a pas de doute, les deux hommes sont à hauteur de leur campement. Tout à coup, quelques secondes, il est traversé par la terreur d'une attaque, une peur atroce qui lui tord le ventre, le paralyse. S'il était parti trop longtemps, le silence de sa mère l'inquiète. Les visages des types qui les avaient attaqués il y a quelques semaines reviennent, il écoute bien ce qu'ils disent, et puis soudain il réagit, cela parle français. Les rires qui éclatent, et bientôt la voix de Sibylle. Samuel ne comprend pas ce qu'elle dit, mais il est rassuré de l'entendre. Son cœur bat comme un fou. Sa poitrine lui fait mal. Son souffle est trop lourd. Il ne peut pas remonter et apparaître en soufflant comme ça. On croirait quoi? Qu'il a couru? Qu'il a peur? Qu'il est troublé? Alors non. Il attend quelques minutes. Il s'assied sur un rocher. Quand il apparaît devant eux, sa mère lui présente Stéphane et Arnaud. Elle plaisante sur le fait qu'elle a eu peur en les voyant arriver et que, en les entendant parler français, elle a été rassurée, comme si le fait d'être français leur interdisait d'être des violeurs ou des assassins. Ils viennent de Nantes. Ce sont deux amis d'enfance qui partent tous les ans loin des tracas de la vie de famille pour Stéphane, loin des tracas du travail, il les juge, pour Arnaud. Ils ne veulent pas rester pour le repas, du pain, des bars, des soupes, des fruits secs, beaucoup. Mais ils partagent volontiers les quelques canettes de bière qu'ils ont trouvées sur l'étal d'un marché il y a quelques jours. Ils évoquent les trajets qu'ils ont parcourus, ce qu'il leur reste à accomplir, les chaussures explosées, le mal aux pieds, la souffrance que c'est de s'envoyer autant de kilomètres par jour. Et ils parlent aussi de ce sentiment de plénitude, d'avoir accompli quelque chose de difficile, qu'ils éprouvent chaque soir. Samuel et Sibylle disent oui, c'est vrai, mais eux sont à cheval. Ils n'ont pas l'impression que l'effort est aussi dur que pour les deux hommes. Sibylle veut leur proposer de planter leur tente près des leurs, de rester et de partager la soirée. Samuel se raidit. Elle le sent, parce qu'il détourne la tête. Soudain, il disparaît dans sa tente. Quand il ressort, les deux hommes vont repartir avant que la nuit tombe. Ils n'ont pas fini leur route. Sibylle leur demande si on va les revoir. Peut-être, se disent-ils. Ils s'arrêteront plusieurs jours avant Hoche. Il y a une grande route là-bas, beaucoup de campements, des yourtes qui accueillent les voyageurs. Et puis des nomades un peu plus haut. On y sera sans doute quelques jours. Vous y serez peut-être avant nous.